I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign.
Ça, c'est Bernie Sanders, un personnage mythique en politique américaine qui a talonné Hillary Clinton il y a 4 ans, aurait voulu être le candidat contre Donald Trump, aurait voulu être encore une fois le candidat contre Donald Trump, Raphaël, et là, il annonce que sa campagne est terminée.
Est terminée pour cette année. Écoute, ce qui est intéressant avec la campagne de Sanders dans le contexte du coronavirus, c'est que il y en avait plusieurs qui se disaient que la crise actuelle pourrait lui donner une espèce d'air d'aller parce que ça lui donnait une occasion en fait assez unique de parler de sa proposition phare d'essayer d'instaurer un système de santé publique universel aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui le disent présentement, s'il y a une vulnérabilité importante pour les Américains présentement face à la crise, ben c'est les trous qui sont inclus dans le système de santé américain actuellement. La réalité, c'est que, honnêtement, là, il n'y a plus personne qui écoutait Bernie Sanders présentement et c'est rien de personnel contre lui. C'est que, écoute, on ne parle pas de campagne électorale et on parle encore moins d'une campagne dans des primaires qui étaient essentiellement plus vraiment compétitives. Là, t'sais, si la crise avait éclaté quand c'était encore serré, quand c'était encore compétitif, écoute, à la limite, on aurait peut-être pu voir, mais la réalité, c'est que avant que la vie américaine soit essentiellement suspendu, là. Ben, tu sais, Bernie Sanders, on le sait, était vraiment dans un trou énorme. Cette course-là était déjà pratiquement terminée. Donc, écoute, plus les semaines passaient, plus sa campagne, en fait, je dirais, avait l'air petite. Et on se demandait pourquoi il s'accrochait. Ben là, écoute, c'est fait. Il se retire. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que Joe Biden va devenir presque assurément le candidat du Parti démocrate et donc va affronter Donald Trump. On le dit quand même, il faut faire attention. Mais Biden part dans cette course-là, dans ce duel-là face à Trump avec une avance d'à peu près 6 points à l'échelle nationale. Ce n'est pas une prédiction de ce qui va se produire en novembre, si même il y a une élection. Mais
Raphaël, oui? La grosse question là, pour savoir s'il va réussir Biden à battre Trump, c'est aussi comment Bernie Sanders va pouvoir rameuter ses partisans pour les inciter à voter pour Biden. Et là, je lisais aujourd'hui son discours, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai lu. Et je regarde la façon très sobre dont il a parlé de Joe Biden. Là, il a dit « Je veux féliciter Joe Biden, un homme très décent ». Oui. Un homme très décent. Hey, c'est pas l'enthousiasme, là, c'est pas, tu sais, il est pas en train de dire, waouh, c'est le leader qu'il nous faut à partir de maintenant, puis c'est lui qui va mettre fin à l'ère Trump et tout. Et ça, moi, ça me fait peur, parce que je me dis, si ça se passe comme en 2016, quand les troupes de Sanders ne se sont pas ralliées en nombre suffisant derrière Hillary Clinton, s'il se passe la même chose envers Joe Biden, ça risque d'être très difficile pour les démocrates.
C'est vrai. En même temps, ce que je serais tenté de te dire, si tu veux faire un parallèle avec 2016, c'est qu'en 2016, il n'avait même pas été aussi élogieux que ça envers Hillary Clinton. Donc, qualifier son ex-rival de personne décente, écoute, il n'avait même pas fait ça avec Mme Clinton. Et contrairement à 2016, justement, il s'est rallié tout de suite. Alors qu'à la fin des primaires, en 2016, ça avait pris des semaines avant même qu'il donne son appui formel à Mme Clinton. Donc, tu as absolument raison que son appui est intégral pour les chances de Biden de battre Trump. En même temps, on a quand même quelqu'un qui s'est retiré. Évidemment, le contexte est très différent. Là, on s'entend qu'il y a 4 ans à cause de la crise actuelle, mais il s'est quand même retiré beaucoup plus tôt qu'il y a 4 ans et oui. S'est rallié également beaucoup plus tôt au candidat présumé du parti.
Mais donc, ses résultats étaient beaucoup moins bons qu'en 2016 aussi, donc il n'y avait pas bien le choix.
Absolument, et la pression pour qu'il se retire était rendue, je pense, beaucoup plus difficile à soutenir qu'il y a 4 ans
mais
aussi.
Mais Raphaël, écoute, t'as vu le même Joe Biden que j'ai vu, là?
Oui.
Moi, je suis pas gériatre, je ne suis pas neuropsychologue, mais j'ai vu et entendu des choses qui donnent à penser que cognitivement, il n'est pas tout là.
On s'entend-tu que ce thème-là, on va l'entendre, puis on va le réentendre, puis on va le réentendre d'ici le mois de novembre? Il va se faire taper dessus à grands coups de « je t'aime » en bon français par l'équipe de Donald Trump. Et ce qui est peut-être plus inquiétant pour le camp démocrate, c'est que dans bien des cas, ces attaques-là ne seront pas nécessairement sans aucun fondement. Parce qu'effectivement, quand on voit M. Biden aller, et c'est pas une chose, c'est pas une fois, c'est pas une exception, là, c'est relativement fréquent. où il semble soit pas tout être là, soit avoir de la misère.
Et des fois, pas comprendre ce qui se passe autour de lui.
C'est ça.
Il a été très bon, il faut le dire, lors de la dernière soirée des primaires. Là. Quand il a parlé, le stade était vide.
Absolument.
Puis là, il a parlé du coronavirus puis que ce que les États-Unis devaient faire pour lutter contre ça. Et franchement, il parlait comme un président. Puis son discours, c'était, il parlait très bien, c'était très éminemment compréhensif, très clair. Puis il y avait de la dignité, puis il y avait de l'intelligence dans le propos aussi.
Oui, absolument. Et en fait, le mot « décent » n'est pas anodin lorsqu'on parle de Joe Biden, parce que s'il y a quelque chose qui peut être avantageux pour les démocrates là, en termes d'établir un contraste avec Donald Trump, c'est la qualité de la personne. Tu sais, quand on choisit un président aux États-Unis, on choisit plus qu'un leader politique. On choisit un symbole, on choisit, comme le dit la vieille expression, quelqu'un qui va être dans nos salons, sur nos télévisions, sur nos écrans de télévision pendant 4 ans. C'est probablement encore plus vrai à l'ère du coronavirus où les gens sont tous devant la télévision. Donc, l'impression personnelle qu'on a de la personne, ça compte de façon disproportionnelle. Et M. Biden est presque universellement aimé, apprécié comme être humain. Est-ce qu'on peut vraiment dire la même chose de M. Trump? T'sais, poser la question, ça revient un petit peu à y répondre.
Tu as raison, Raphaël, sauf que ce test des valeurs-là, quand il y a 40% des Américains qui l'aiment beaucoup, M. Trump, qui vont voter pour lui, même s'il tirait quelqu'un sur la 5e avenue, comme il avait dit de façon très célèbre avant d'être élu, on ne peut pas faire abstraction de ça. La base de Trump, je pense qu'elle est pas mal plus forte que la base de Biden.
T'as raison. Et ça, c'est pas juste une question d'impression. C'est une question de données qu'on a, des données très récentes qui viennent des derniers jours, qui montrent quoi? Que le taux d'électeurs qui sont très enthousiastes à l'égard de voter pour Donald Trump est nettement plus élevé. On parle de 10, 15, 20 points de pourcentage plus élevé que le taux d'Américains qui se disent très enthousiastes à l'égard de voter ou à l'idée de voter pour Joe Biden.
Mais au fond, ce qui est important, c'est pas que la base de Biden aille voter pour les... Oui, il faut qu'il aille, mais que c'est la base anti-Trump dans
c'est
son
ça.
Ensemble. C'est comme ça qu'ils vont réussir à rassembler. Puisqu'au fond, ça va être un référendum sur Trump, cette élection-là.
Comme je le dis depuis des mois, Philippe, c'est exactement là que je m'en allais. C'est que même si M. Biden n'inspire pas nécessairement énormément d'enthousiasme ou de confiance, ce qui inspire énormément d'enthousiasme et de frustration pour les électeurs démocrates, c'est le président sortant. Les élections, vous le savez, je vous le répète justement depuis des mois, quand il y a un président sortant, servent foncièrement de référendum. Là, c'est sûr que c'est complètement éclaté, particulier comme situation, parce que on va avoir un référendum sur la gestion, en bonne partie, d'une crise comme on n'en a jamais vu de nos vivants. Et tu sais, on s'en est parlé assez longuement hier, là, lors de la chronique. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut vous dire à quoi va ressembler cette campagne-là. Ou, et là, je ne veux pas faire dans l'alarmisme, mais personne ne peut même vous garantir qu'on va avoir une élection fonctionnelle au mois de novembre. Tu sais, fait que non seulement on ne peut pas prédire qui va la gagner, on ne peut même pas prédire qu'elle va se dérouler de façon normale et de façon qui va inspirer de la légitimité après coup pour ce qui est de la personne qui va l'avoir gagné. Tu sais, fait que écoute, avec tout ce qui est coronavirus, évidemment, on est en territoire largement inédit. Ça, malheureusement, ça implique aussi la campagne électorale. Je dis malheureusement parce que, tu sais, on se parle d'implications sociales, d'implications économiques, d'implications de santé. Toute la question de la stabilité de la démocratie américaine, là, c'est en jeu et ça va être en jeu au courant des prochains mois, là.
Merci, Raphaël. On se reparle demain.
À demain.
Oui, c'est ça. Joe Biden, moi, Philippe, là, je le regarde aller. Je trouve pas que ça a été une très bonne campagne. Il y a eu de la misère à s'imposer.
Ouais.
Va-t-il faire sortir le vote?
Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est le débat ou les débats. On verra bien, mais je pense qu'il y aura un débat. D'habitude, il y en a trois. On verra bien si c'est le cas. Mais en débat, il va falloir qu'il soit très solide parce qu'on connaît comment l'autre est capable d'attaquer.
Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais Trump aussi semble avoir des problèmes cognitifs. C'est pas toujours où il est. Il dit des sottises. Peut-être, mais quand il est cohérent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, d'un point de vue rhétorique, il est efficace.
Puis il n'a pas peur de dire des faussetés, ça ne le gêne pas.
Voilà, 16h58. Merci Philippe d'avoir été là.
Salut.
OK, au retour, on est là avec Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSweeney, les accros.